fui tua pica, o teu ajoelho.
Vivre dans une maison saine, travailler dans un bureau sain nécessite l'expertise de Angel Service de Nettoyage. Angel, c'est le numéro 1. Il montrait qu'il s'y fait déjà. Personnel qualifié. Tu as utilisé prix qui est commandé. Protégez votre espace santé avec Angel. Prix abordable. Nos services, aménagement et déménagement. Nettoyage en profondeur et léger. Événement spécial. Nettoyage de bureau, etc. www.angelservicenettoyage.com. Service au pluriel. Mounandou, il n'y a pas de nettoyage. Après job là, quitte si bagaille marron capital. Pas quitter sa rivière. Relais Angel Service. Votre santé d'abord. 438-989-1120. Relais Angel.
La phase 2 de Noria Appartement est maintenant complétée. Découvrez l'unique projet d'appartement locatif neuf et contemporain au cœur de l'arrondissement Saint-Laurent. Vous verrez, avec sa formule plus, son stationnement intérieur, sa piscine, ses multiples espaces de rangement, ses aires communes ainsi que ses nombreux services et commerces de proximité, le Noria est facile à vivre et facile à aimer. Visitez-nous. NoriaAppartement.com.
Tu penses qu'animer à la radio, c'est pour les autres puis que c'est inaccessible? Ben, c'est tout le contraire. La radio a besoin de relève. Elle cherche du monde animé qui a des choses à dire. Ceux que tu écoutes actuellement sont posés les mêmes questions que toi.
Ah ouais?
Mais ils ont agi. Ils ont choisi une formation. Ils ont appris le métier. Et aujourd'hui, ils sont en onde. Le chemin le plus court entre chez toi et la radio, c'est le Collège Radio-Télévisé Québec. Un cours pratique en deux sessions. Toutes les informations sont au crtq.ca.
Madame Bénard, là où les saveurs du monde se rencontrent et se mélangent, avez-vous déjà visité le marché Béda? Au 10539 boulevard B9, au centre commercial Forêt. Le marché Béda, là où la diversité et la fraîcheur se dégustent à chaque produit. Venez et profitez de nos produits. Le marché Béda, là où les saveurs du monde se rencontrent et se mélangent. Le marché Béda, venez vivre une véritable symphonie de saveurs. Le marché Béda, 10539 boulevard B9, au centre commercial Forêt, 514-999-2191. Mode de vie, actualité, mieux-être, désir au féminin, opinion et débat. Elle vous donne rendez-vous à tous les vendredis pour Quotidiennement avec Elisabeth. De 9h du matin à midi, une approche à cœur ouvert, une présentation sans frontières.
Radio Centre-Ville, c'est ma radio, c'est ta radio, c'est notre radio. 102.3 FM.
Midi Info.
Mercredi 9 octobre 2024, vous écoutez 102.3 FM. Auditeurs et bonjour, bienvenue sur ce bulletin de nouvelles. Je suis Arlette Josué, en équipe avec Valérie Montreuil. Voici les grands titres de cette édition.
Mesdames et messieurs, bonjour. Le corps de la fille portée disparue à Trois-Rivières a été repêché mardi, 6 jours après sa disparition dans des circonstances qui restent obscures. Sexagénaire, tué et démembré, Nicolas Côté a déjà plaidé coupable pour le meurtre non prémédité et l'outrage au cadavre de Luc Lafontaine. Une femme de Longueuil aurait ébouillanté un enfant de 10 ans qui marchait sur son terrain. Mesdames et messieurs, nous vous avons aussi préparé des nouvelles internationales, mais avant le développement de ces titres, voici l'éditorial de Radio Centre-Ville présenté par le directeur général, M. Banex Lalanne Zéphir.
La vie en société, en équipe, en clan ou en gang permet aux individus de se sentir connectés, compris et soutenus. Le but est de satisfaire les besoins émotionnels et psychologiques de tout un chacun. La raison est simple, l'homme est un être social par essence et il est de nature de rechercher la compagnie et les échanges avec ses semblables. D'ailleurs, depuis les premiers hommes jusqu'à nos jours, cette caractéristique s'est toujours manifestée à travers les interactions, les relations et les liens qu'ils tissent avec ses semblables. Ceci s'explique par le besoin d'appartenance et de lien social. L'homme a besoin de se sentir en connexion avec les autres et de faire partie d'un groupe. Nous le répétons encore une fois, cette nécessité fait partie intégrante de la nature humaine et remonte à la préhistoire. On peut aller plus loin pour dire que la survie de l'individu dépend de sa capacité à coopérer avec ses semblables pour chasser, se protéger et reproduire. De notre côté, les interactions sociales, les échanges verbaux et les gestes de solidarité procurent un sentiment de bien-être, de satisfaction. La sociabilité joue un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre émotionnel et psychologique de chaque individu. Cette sociabilité favorise l'apprentissage, car l'homme est capable d'apprendre et de s'adapter à son environnement grâce à son interaction avec les autres. Il acquiert des connaissances, des compétences et des valeurs au contact de ses semblables. Vivre en société, en équipe ou en gang offre également une dimension de sécurité et de protection. En s'associant avec ses semblables, l'homme se sent moins vulnérable aux dangers extérieurs. Ces définitions ne s'appliquent pas seulement à l'être humain. Beaucoup d'animaux se regroupent pour se protéger des prédateurs. Ils vivent en meute et ils chassent ensemble. Tout cela pour dire que vivre en société, en équipe ou en gang n'a rien de malsain. Au contraire, c'est positif. Il faut encourager ces modes de vie. Toutefois, quand des individus se regroupent pour faire du mal aux autres, cela devient malsain et répugnant. Là, on fait allusion aux gangs armés, aux gangs criminalisés. D'entrée de jeu, il faut établir une délimitation entre gangs sociaux, gangs de social et récréatifs. Beaucoup de jeunes se regroupent pour avoir du plaisir ensemble, pratiquer un sport, jouer de la musique, etc. Ces gangs sont différents des gangs de rue qui luttent pour avoir du territoire, du pouvoir et de l'argent. Le gang de rue est défini comme un regroupement plus ou moins structuré d'adultes, d'adolescents ou de jeunes adultes qui privilégie la force de l'intimidation du groupe et de la violence pour accomplir des actes criminels dans le but d'obtenir pouvoir et reconnaissance, et ou de contrôler des sphères d'activité lucrative. Ce phénomène fait peur. En 2006, on comptait 785 000 membres de gangs de rue et 26 800 organisations aux États-Unis. Au Canada, pour la même année, on dénombrait 300 organisations et 11 000 membres. Et au Québec, il y avait 50 organisations. Quelles sont les causes de ce phénomène? La première est la désorganisation de la société. La société est désorganisée. Elle n'arrive pas à contenir et à contrôler les comportements déviants de ses membres. Deuxième raison, deuxième cause, les jeunes, ces jours-ci, accusent un manque de lien flagrant avec les institutions conventionnelles. Famille, école, etc. Il faut rétablir l'autorité parentale, mais aussi, il faut apprendre à certains parents à mieux exercer leur rôle. Exclusion. Quand les jeunes se sentent exclus, ils vont se regrouper en gang. Il faut combattre les inégalités, les préjugés, pour que le jeune se sente accepté et toléré. À tout cela s'ajoutent les frustrations, la déviance, le désordre de la personnalité, consommation de drogue, faible estime de soi, symptômes de dépression, problèmes cognitifs, famille dysfonctionnelle, violence physique, sexuelle, psychologique, manque d'encadrement, etc. En tenant compte de tous ces facteurs, tous les jeunes, quelle que soit leur ethnie, leur couleur, sont vulnérables. Oui, les Noirs et les Arabes sont plus visibles, car ils font partie des minorités visibles. Mais le phénomène guette tous les jeunes. Quand une partie du corps est affectée, tout le corps est exposé. Car c'est pour cela que Radio Centre-Ville pense qu'il est urgent pour la société d'agir promptement. Les quartiers défavorisés font partie de la société. Les jeunes issus des parents défavorisés ne doivent pas être oubliés. Ils ont aussi des besoins. Donc il faut diminuer les écarts sociaux si on veut bâtir une société juste et égalitaire. Et pour bâtir une telle société, il faut prêcher par l'exemple. Il faut que les gangs internationaux arrêtent les guerres. Depuis le 7 octobre 2023, donc un an moins deux jours, un gros gang international réprime un petit. des milliers de morts, des milliers de déplacés, des milliers d'amputés, et cela se poursuit. Radio Centreville pense aux victimes. Que la paix, la vraie paix, s'installe partout dans le monde.
Le corps de la fille portée disparue à Trois-Rivières a été repêché mardi, 6 jours après sa disparition, dans des circonstances qui restent obscures.
Urgent, urgent. Une mère congolaise en détresse appelle les autorités canadiennes ainsi que le public à l'aide pour retrouver sa fille portée disparue depuis une semaine. Alexandra a été vue pour la dernière fois le mercredi 2 octobre et ses parents résidant à Kinshasa ont beaucoup de craintes pour ce qui serait arrivé à cette jeune étudiante de l'Université de Trois-Rivières.
Bonjour, je m'appelle Rosemine, je suis congolaise d'origine vivant à Kinshasa. Je suis la maman d'Alexandra, une Congolaise vivant au Canada, à Québec, précisément dans la ville des Trois-Rivières, où elle est étudiante à l'université et elle combine avec un job étudiant.
Triste nouvelle, le pire scénario est arrivé à la mère congolaise dont le cri d'alarme a fait le tour du web alors qu'elle demandait l'aide pour retrouver sa fille qui étudie à l'université de Trois-Rivières. Le corps d'Alexandra Martine Diengolubaï a été retrouvé dans le fleuve Saint-Laurent mardi, 6 jours après sa disparition, dans des circonstances qui restent obscures. La veille, c'est-à-dire lundi, la police avait suspendu ses recherches et demandé à ce que les citoyens continuent leurs efforts, selon les membres de la communauté. Autour de 10 heures ce mardi, alors qu'une centaine de personnes venues de différentes villes, Trois-Rivières, Montréal, Québec, Ottawa et Toronto, et issues de différentes nationalités, s'activaient à travers le parc de l'île Saint-Quentin, une information a circulé faisant état de la découverte macabre par un kayakiste. Le corps d'Alexandra venait d'être repêché dans le fleuve non loin de la marina. C'est là que la police de Trois-Rivières a officialisé l'information tout en restant avare de détails, à part de dire que c'est un corps qui avait séjourné dans l'eau, ajoutant que d'autres étapes devaient suivre à des fins d'identification formelle. Le sergent Luc Mongrain, chargé des relations publiques pour la police de Trois-Rivières, a dit que les détails seront donnés ultérieurement. Au sein du public, l'incompréhension était mêlée de frustration palpable, spécialement lors du point de presse du sergent Mongrain.
Et puis présentement, ben, on est en mesure de confirmer que c'est bel et bien un corps qui a été retiré de l'eau. Trop tôt cependant pour identifier formellement le corps, à savoir s'il s'agit bel et bien de Mme Alexandra. À la morgue dans le but qu'il soit identifié positivement. C'est ce qu'on peut dire actuellement.
Sans parler d'identification formelle, est-ce qu'on peut supposer qu'il pourrait quand même s'agir de la personne qui était disparue le 50
ans en ce moment? Oui, tout pour moi. J'ai même pas vu le corps, donc moi, c'est l'information qu'on me donne. C'est que c'est ça, c'est un corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est un corps qui est tourné dans l'eau. Bon, ben, c'est pas dans un miroir, c'est pas, ça reflète pas dans la réalité. Là. Bref, nous autres, on a une mesure officielle. Le corps va devoir être acheminé, comme on l'a dit, qu'il soit identifié positivement.
Les émotions étaient vives et notre collègue Ismaël Mbonigaba les a partagées à chaud avec Peggy Civil, la directrice de Civil Communication qui était du voyage.
Oui, je suis encore à chaud hein, de tout ce qu'on a vécu, toutes les gammes aussi d'émotions, mais il faut affronter cette réalité que malheureusement, malgré tous les efforts qui ont été déployés depuis hier et aujourd'hui, un corps a été retrouvé. Qui sent fortement Mademoiselle Alexandra. Donc malheureusement, cette fois-ci, les choses ne se sont pas passées de la façon qu'on aurait voulu.
Les émotions que l'on a pu tâter au sein du public, c'est que il y a de l'incompréhension et puis une forte frustration. Du fait que ça a pris beaucoup de temps pour que le corps soit retrouvé. Et les gens disaient, mais si les choses avaient été faite efficacement, il aurait peut-être été retrouvé en vie. Donc, puis, ils étaient très frustrés de ce qu'ils ne voient pas, qu'on ne remontre pas le corps de la défunte. Surtout que la police a gardé d'affirmer qu'il s'agit d'Alexandra, hein, vous savez.
Oui, il n'y a pas eu de confirmation, mais il fallait être là pour comprendre aussi. Ouais. Donc, le non-verbal des gens qui s'occupaient de chercher ces informations, de confirmer ou d'infirmer, C'était clair.
De toute façon, il n'y avait pas deux recherches simultanées. Il n'y avait qu'une seule recherche et c'était bel et bien celle d'Alexandra.
Exactement. Donc, malheureusement, les choses se terminent de façon. Je pense aussi que cette communauté s'est beaucoup mobilisée. Donc, j'ai vu des jeunes prendre leur place, parler haut et fort, former des groupes dans cette communauté. C'est un peu par nous, pour nous, géré un peu aussi par nous, mais je trouve qu'il y a eu beaucoup d'initiatives. Ça me donne une lueur d'espoir de dire que finalement, l'union peut définitivement faire la force. Je trouve que la communauté s'est servie de leur propre expérience. Ils étaient positifs. Donc, de ce côté, je félicite cette génération qui était présente, entre autres l'association des jeunes congolais de l'Université de Trois-Rivières. Il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc, ils me donnent espoir. Ils me donnent espoir parce qu'ils ont pu parler, ils ont pu revendiquer, ils ont pu aussi pleurer.
Il y a
eu des moments aussi de, je pourrais pas de joie, mais de joie de connexion.
De soulagement, peut-être, peut-être dire.
Oui, de joie de connexion humaine, de pouvoir parler à l'autre sans barrière, de pouvoir faire sortir ses émotions sans être jugé aussi.
Voilà. Il faut ajouter que ce n'est pas fini. La police dit qu'ils vont annoncer, faire des annonces plus tard, ultérieurement. Bien sûr qu'il y a une enquête qui va peut-être commencer pour éclaircir les circonstances dans lesquelles cette fille a disparu.
Je pense qu'on est tous à l'attente de cette justification, de cette lignée, de la façon que les choses ont été faites, de réaliser comment ça s'est passé, mais pas nécessairement juste avec les yeux je pourrais dire un peu de cette communauté, mais vraiment dans les faits. Donc, je pense qu'après une autopsie, on va pouvoir avoir beaucoup plus de détails.
Absolument.
À savoir s'il y a eu des signes de violence ou pas, ça faisait combien de temps, etc. Donc, c'est sûr que Trois-Rivières a l'air extrêmement mobilisé pour avoir des réponses à leurs questions. Il y a des leaders qui sont là-bas aussi qui réclament déjà ces réponses. Donc, ça va être à suivre, ce dossier.
Peggy Sifre, je vous remercie. C'était un plaisir d'être avec vous. Et à la prochaine.
À la prochaine. Merci à vous.
La défense et la couronne ont des opinions diamétralement opposées sur le temps minimal que devrait rester à Londres un meurtrier de 21 ans qui a tué et démembré un sexagénaire. La première demande de 10 ans de prison, le minimum prévu par la loi, et l'autre réclame le double, soit 20 ans. Nicolas Côté a déjà plaidé coupable pour le meurtre non prémédité et l'outrage au cadavre de Luc Lafontaine survenu à l'automne 2022. L'accusé sait que les crimes qu'il a commis lui vaudront une peine de détention à vie, mais la juge de la cour supérieure Lynn Descarry doit maintenant trancher sur le temps qu'il devra purger derrière les barreaux avant d'être admissible à une liberté conditionnelle. Et les parties ne pourraient pas être divisées. Les 20 années suggérées par la couronne frôlent la peine maximale qui est de 25 ans, alors que la défense demande plutôt le temps minimum possible pour un meurtre, soit 10 ans. Luc Lafontaine avait été tué dans sa résidence de la Prairie. Il avait d'abord été porté disparu, mais son corps démembré avait été retrouvé quelques jours plus tard, alors que Nicolas Côté et sa copine Zoé Boutin s'apprêtaient à s'en débarrasser. Le meurtrier ne connaissait pas sa victime, mais il était entré en contact avec elle afin de protéger un ami qui dit avoir été agressé par Luc Lafontaine. Ce dernier n'a jamais été accusé en lien avec ces allégations. Nicolas Côté voulait le rencontrer, mais c'était mon histoire. Je ne voulais pas qu'il s'en mêle, je ne voulais pas que ça crée plus de problèmes, a témoigné mardi l'ami de l'époque de l'accusé. L'ami s'était confié à Côté sur les conséquences des agressions. Il avait des idées noires et se mutilait. Dit avoir peur de Lafontaine, qui se montrait insistant, multipliait les contacts sur différentes plateformes malgré les tentatives du jeune homme de bloquer son numéro. Le jour du meurtre, Côté s'était présenté chez Lafontaine pour le confronter, mais les choses avaient dégénéré. La victime avait été frappée à la tête avec un marteau et poignardée. Selon la couronne, l'accusé est si dangereux qu'un long moment derrière les barreaux est nécessaire avant qu'il ne puisse tenter d'obtenir sa libération. Une liste manuscrite de 56 manières de torturer une personne avait en effet été retrouvée après son arrestation. Par ailleurs, des proches de la victime ont aussi témoigné afin de dénoncer la brutalité de cette mort. Son fils a notamment raconté qu'il avait encore en tête des images traumatisantes lorsqu'il repensait à l'état du logement de son père après le meurtre sordide. Il a aussi déploré avoir appris devant tout le Québec des informations personnelles concernant son père, pour lesquelles il ne pourra jamais discuter avec lui pour comprendre. Les observations sur la peine doivent se dérouler toute la semaine. Une série de nouvelles macabres. TVA Nouvelles rapporte qu'une femme de Longueuil a été arrêtée pour avoir versé de l'eau bouillante sur un garçon de 10 ans qui marchait sur son terrain mercredi dernier. L'incident se serait produit à Longueuil dans le secteur du chemin de Chambly et du boulevard Curé-Poirier S le 2 octobre.
octobre. Le garçon qui circulait avec des amis aurait marché sur le terrain d'une femme âgée de la quarantaine. La femme en question, qui est la voisine d'en face des parents de la victime, a été libérée sous promesse de comparaître. Elle devait faire face lors de son retour en cour au mois de janvier à des accusations de voies de fait causant des liaisons et d'agressions armées. Seul un être ignoble peut faire ça à un enfant. Il est complètement terrorisé, potentiellement marqué physiquement. Elle réagit sur X, la députée libérale Marwa Rizki, face à cette nouvelle. Voici les détails de TVA Nouvelles.
Parce que les blessures infligées au petit gars de 10 ans sont horribles. Vous allez voir la peau décollée du corps complètement. Il a été atteint au visage, sur une portion du corps. On parle de brûlure au deuxième degré. Dans le contexte, c'est la semaine dernière, 2 octobre, dans le secteur du chemin Chambly à Longueuil et de la rue Curé-Poirier-Est. Le petit garçon qui fréquente l'école primaire dans ce secteur-là avec des amis circule donc sur le terrain d'une femme qui est âgée dans la quarantaine et elle sortira donc de son appartement avec une casserole d'eau bouillante qu'elle a fait bouillir. Là, délibérément, volontairement comme ça, et elle lancera la casserole d'eau au petit gars de 10 ans qui sera atteint. Et aujourd'hui, ben vous comprenez, c'est compréhensible, là, il est en congé chez lui avec ses parents en ce moment. Bon, qu'est-ce qui a motivé cette femme à commettre ce crime horrible? Ses parents me disaient que, d'une part, il n'y a rien qui justifie ça, que son fils est passé, oui, sur le terrain, là, de l'immeuble à logement où elle habite.
Parce que, c'est ça le reproche. Le reproche, c'est de faire une diagonale en coin, là, de passer sur le terrain.
Ça irait au-delà de ça, mais c'est loin d'être confirmé. Les parents prétendent que l'agresseur reprocherait en fait au petit garçon et aux autres élèves de venir sonner et cogner à sa porte comme ça pour la déranger. Mais il n'y a rien qui prouve ce qu'elle avance, l'agresseur, dans ce dossier-là, Mario, parce que le petit gars fréquente depuis à peine un mois cette école primaire. Ses parents sont originaires de la Côte d'Ivoire. Ça fait peut-être 2 ans qu'ils sont au Québec, mais récemment, ils sont déménagés dans ce quartier-là, donc ça fait à peine 4 semaines que le petit gars fréquente l'école primaire. Est-ce qu'il est allé sonner comme ça à la porte? Peut-être, mais est-ce que ça justifie un geste aussi grave? On va écouter le père du petit garçon de 10 ans et le cousin du père.
C'est méchant. Et puis, il n'était pas seul. Il était avec ses autres camarades. Et puis, c'est le seul. Alors, on se pose des questions. Est-ce parce qu'il est noir que c'est lui qu'elle a choisi?
Elle a préparé son eau bouillante en tendant l'enfant. Attendant à ce que la cloche sonne, elle savait que l'enfant allait passer d'un moment à l'autre. Et puis, elle est sortie verser de l'eau sur l'enfant. Donc, nous disons que c'est prémédité.
Mais là, Yves, vous êtes au palais de justice, elle fait face à quel genre d'accusation? Est-ce qu'elle plaide coupable, non coupable?
Elle a été libérée avec promesse de comparaître. Elle devrait faire face en principe au mois de janvier prochain à des accusations de voies de fait causant des lésions et d'agressions armées également. Mais elle est libérée entre-temps avec des conditions à respecter. Et ce qui est particulier dans cette affaire, je termine là-dessus, elle est la voisine d'en face des parents de la jeune victime de 10 ans.
Eh bien, merci Yves. Au revoir.
Mesdames et Messieurs, voici l'international de notre édition de Midi Info, qui vous est présentée par ma collègue Valérie Montreuil.
Au Kenya, le vice-président Rigathi Gachagua a été destitué par le Parlement mardi. 281 députés ont voté en faveur de sa destitution, tandis que 44 ont voté contre. Un seul député s'est abstenu, ce qui révèle des tensions profondes au sein du gouvernement, soit 10 députés que ceux qui avaient voté la motion de destitution. Le vice-président Rigathi Gachagua est accusé d'avoir soutenu les manifestations anti-gouvernementales de juin et d'être impliqué dans des affaires de corruption. Devant le Parlement, Rigathi Gachagua a vigoureusement défendu son droit à la présomption d'innocence, soulignant que ses accusations du député Gibwezi Mwegi Mutuz étaient infondées et ne justifiaient pas une telle décision dans un procès équitable. Je me tiens ici aujourd'hui pour me défendre et je m'excuse auprès de mon défunt frère de devoir protéger son testament privé. Les biens qu'il a acquis à force de travail acharné, destinés à soutenir sa famille, sont désormais justement considérés comme le produit de la corruption, a rétorqué le vice-président kényan lors de son audition. Cette destitution révèle des tensions profondes au sein du gouvernement. Si le Sénat venait à la confirmer, elle marquerait un tournant dans les relations entre le président William Ruto et son colistier. Leur ticket réuni sous la bannière Kenya Kwanza UDA avait remporté la présidentielle en août 2022. Après avoir examiné les charges portées contre le vice-président, le Sénat devrait se prononcer. En cas de destitution, M. Gachagua deviendrait le premier vice-président à être destitué depuis l'adoption de la nouvelle constitution en 2010. Alors que les opposants s'inquiètent des absences répétées du président Paul Biya, les partisans l'appellent à briguer un huitième mandat à 91 ans. Son état de santé suscite de nombreuses interrogations. À 91 ans, le président camerounais Paul Biya cultive le mystère. Ces derniers mois, il a multiplié les absences, faisant augmenter les doutes sur sa capacité à diriger le pays. En septembre dernier, Paul Biya était attendu à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, mais il a annulé ce voyage pour se reposer en Suisse. Même scénario en début de mois. Le président annule à la dernière minute sa participation au sommet de l'OIF. Des absences répétées qui ont poussé un candidat à la prochaine élection présidentielle à adresser une trouverte à la présidence de la République, demandant plus de transparence sur la santé du chef de l'État. Un courrier reste sans réponse. En parallèle, et malgré les inquiétudes, les partisans du président l'appellent à briguer un nouveau mandat lors de la présidentielle de 2025. Au pouvoir depuis 1984, Paul Biya sera alors en lice pour un huitième mandat. Aux États-Unis, Harris devant Trump dans un sondage du New York Times. À 4 semaines de la présidentielle américaine, Kamala Harris a pris une légère avance de 3 points sur Donald Trump, selon un sondage du New York Times publié ce mardi. La vice-présidente démocrate recueille 49% des intentions de vote à l'échelle nationale contre 46% pour son rival républicain. La candidate de 59 ans effectue notamment une percée auprès des républicains qui sont 9% à la soutenir, selon ce sondage réalisé par l'université Siena College. Kamala Harris tente de rallier une partie de ses électorats en faisant le pari que certains républicains modérés ne veulent pas d'une nouvelle présidence du milliardaire de